franceinter.fr.
Mais c'est pas contre la mise en scène. Si t'es fou, ça t'empêche pas d'être un grand metteur en scène. Ce que je voudrais pas, c'est qu'on empêche un mec de faire ce qu'il a à faire, si ce qu'il a à faire est aller à la Fémis. Parce qu'il est dingue.
Mais c'est pas parce qu'il est dingue.
Il est doué et dingue.
On fait quand même des métiers où il faut savoir un peu communiquer.
Non.
Avec, si.
Non, parce que là, tu donnes un point de vue unique de ce que doit être un metteur en scène. C'est ça qui me fait chier.
Les filles, vous m'entendez?
Yes, I hear you.
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez. You know all to you.
Say it again.
Una are to vous.
We're gonna be fine.
Now, go wait.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
1250 candidats entrent dans cet amphithéâtre. À l'arrivée, 4 mois plus tard, ils seront une quarantaine. Oui, une quarantaine et demie à ce concours. Ce n'est ni Polytechnique, ni médecine, ni les Ponts et Chaussées, mais la Fémis, la Fondation Européenne des Métiers de l'Image et du Son. Bref, 40 candidats. Aspirant à faire du cinéma. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Claire Simon a voulu filmer d'un bout à l'autre ce chemin, ces épreuves écrites orales, le secret de leur délibération, l'espoir, l'attente, le trac. Tout est dans ce film passionnant, le concours. Il sort mercredi prochain. Bonjour Thomas Caillet.
Bonjour.
Vous étiez parmi les 1250 candidats dans cet amphi de Nanterre à la limite de l'âge requis, 27 ans et admis en section scénario. Et vous êtes devenu réalisateur avec ce film Les Combattants, criblé de prix mérités. À vos côtés, une étudiante en exploitation qui est devenue scénariste. Bonjour Charlotte Sanson.
Bonjour.
Entrée en 2005 à la Fémis. Et bienvenue Arlène Groff.
Bonjour.
Promo 2004, section exploitation et désormais programmatrice au ciné 104 à Pantin. Tous les trois, vous avez vu ce film, le concours Alors, c'est ce qu'on va voir. Un autre concours, celui des sorties de la semaine. Qui va gagner entre Jackie, Sahara, Moonlight, Iggy Pop ou La Femme qui est partie là aussi? Le combat est rude. Et pour ouvrir cette heure, un souvenir, celui d'une femme, actrice rare, intense, Emmanuelle Riva, partie la semaine dernière, nous l'avions reçue à Cannes à l'occasion d'Amour de Michael Haneke aux côtés de Jean-Louis Trintignant.
On devient quand même autre hein, sur un plateau. Il y a soi au départ, mais très vite l'autre arrive. Donc c'est l'autre qui donne la gifle, puisqu'on parle de gifle. Et je ne sais même pas si Michael a choisi celle qui m'a paru à moi la plus réussie, je ne sais pas. Parce que, oui, il n'a pas choisi la plus réussie. Celle qui m'a donné des larmes, m'a amené des larmes, d'ailleurs, vous allez voir. Oui, mais parce que, bon, et il y en a une où Jean-Louis, je ne sais pas si vous vous rappelez, où c'était très bien lancé, mais ça ne m'a pas touchée. Ou alors à peine, j'ai senti un petit souffle, je me suis dit... Et il a dit qu'à l'écran, c'était la mieux. On avait l'impression, oui, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on voit sur l'écran, là, actuellement. Donc, la vraie gifle n'a pas été adoptée. C'est celle qui ne m'a pas touché. Donc, c'est vraiment joli, non, ça. Donc, je vous dis que c'est autre, même la gifle était autre. Alors, vous voyez.
C'est agréable d'entendre Emmanuelle Riva rire, contrairement à l'image austère qu'elle dégageait, Laurent.
Oui, c'est presque un rire de petite fille, fille qu'elle était restée, malgré effectivement des films formidables comme Léon Morin, ou le Hiroshima Mon Amour, ou Amour, vous l'avez dit, évidemment. Moi, je me souviens d'elle aussi quand elle nous a raconté que sur le tournage d'Amour, elle restait couchée, passait la nuit sur le tournage dans un petit studio aménagé, et elle dansait sur des musiques de Radio Orient. J'ai cette vision-là à jamais de Emmanuelle Riva dansant toute seule dans une chambre sur des radios Orient, je trouve ça merveilleux.
Elle est vraie, elle a envie, elle est bien. Non, puis elle a un truc, elle n'est pas formatée genre à faire des phrases compliquées. Elle dit
non, elle
n'est
pas formatée féministe, c'est ouais. Cool, quoi. Putain.
Alors qu'elle est en canne.
Ouais, elle est tout formatée sur le papier.
Aussi, mais... Tu vas se faire voir par l'accent.
Oui, non, pas uniquement. Non, parce que si tu veux les trucs, les nouvelles...
Non.
Comment elle parle du docu, c'est super.
C'est super.
Elle en parle vraiment, ouais, c'est son point de vue. Ouais. C'est pas un truc qu'elle a lu dans un bouquin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas... Ça n'a rien à voir. Hein. Elle a pas pris le mode d'emploi du passage de
Et à la fin, ça marchait. Il était
oui,
bien.
Oui, absolument.
Tu es d'accord?
Non, non, et puis en plus, tu vois, elle a eu raison dans le décor de merde avec le texte.
Ça nous a fait du bien, ce
ouais,
décor.
Ouais, ouais, oui, c'est ça, d'être un, peu, d'être un peu burlesque et tout. Non, non, elle assume son truc, tu vois.
Ils écoutent et ils sourient, nos trois ex-étudiants, Fémis, Thomas Caillet, Charlotte Sanson, Arlène Groff, extrait donc du concours de Claire Simon, qui sort mercredi prochain. Ça veut dire quoi être formaté Fémis?
Bah alors c'est une bonne question. Charlotte, en tout cas, c'est un truc Sanson. Qu'on entend beaucoup quand on sort de l'école. Mmh. C'est étonnant parce que c'est une école à la fois qui nous aide, mais que parfois on paye. C'est-à-dire qu'il y a une...
Dont on paye cette réputation.
Ouais, oui. Il y a une idée comme ça qu'on va être des gens imbus de soi-même. Surtout peut-être les réalisateurs. Sur les autres sections, c'est un peu moins...
Je l'ai fait en scénario.
Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a une réputation élitiste, nombriliste, parisienne, Arlène.
En tout cas, moi, dans la section dans laquelle j'étais, il y avait plein de provinciaux. Ouais. Et effectivement, c'est de toute façon quelque chose... Il y a tellement tellement d'appelés et peu d'élus que finalement, ça suscite aussi énormément de fantasmes. Et c'est ce qu'on voit au début, quand on voit les 1200, le nombre de postulants en réalisation, etc. Et au final, la réalité, elle est quand même très différente de ce qu'on présume quand on voit ne serait-ce que la diversité aussi des films qui sont produits et la diversité des gens qui les fabriquent à la sortie.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelez donc la Fémis, ex-IDEC, donc, fondée en 86, qui est rue Francoeur à Montmartre, l'une des trois grandes écoles de cinéma à côté de Lumière et l'école supérieure de Dieu visuel. Taux de réussite donc 3% et 1% en réalisation, 7 départements principaux, réalisation, scénario, production, image, décor, son, montage, plus... Script, effectivement, et exploitation, distribution, concours de mars à juillet avec Bac plus 2, 200 correcteurs et trois tours. Pourquoi vous avez voulu faire la Fémis, Thomas, par exemple, Thomas Caillet?
C'est un désir qui est né assez tard. En fait, j'étais déjà rentré dans le... je m'étais déjà professionnalisé, j'avais un métier, j'avais signé un CDI, tout ça, j'avais un bureau, un ordinateur. Je me souviens avoir pris une photo de ce bureau le jour où j'ai signé mon CDI en me disant attention, ça peut être ça aussi. Et quelques années plus tard, mon frère qui était lui-même, qui avait passé le concours de, enfin qui avait passé son CAPES de physique et qui enseignait la physique, a tout abandonné pour passer le concours de Louis Lumière et devenir chef opérateur. Et quand il a fait ça, j'étais hyper joyeux pour lui et en même temps un peu triste pour moi parce que je me suis dit que j'avais enterré quelque chose depuis quelque temps et j'étais toujours passionné par l'écriture. Du coup, ça s'est un peu réveillé et il était temps parce que j'avais 27 ans et que c'était le dernier moment pour passer la Fémis. Donc j'ai découvert que cette école existait à ce moment-là et je me suis inscrit. Voilà.
Charlotte Sanson, pourquoi pensez-vous avoir réussi?
Alors en fait moi j'ai passé la Fémis un peu pour échapper à ce que je faisais à l'époque à ce moment-là, c'est-à-dire que je passais la grecque d'anglais pour la deuxième fois et j'avais en fait au fond pas trop envie d'être prof. Donc j'ai passé la Fémis un peu sur un coup de tête, il y avait plus que le concours distribution exploitation qui était ouvert cette année-là puisque les autres filières étaient déjà passées. Donc j'ai tenté le coup un peu comme ça pour voir quoi pendant les vacances de Pâques et je pense que j'étais un peu surentraînée en mode bête à concours à cause de la grecque. Et en plus là d'un coup je pouvais écrire des dissertes sur des films donc ça m'amusait beaucoup plus et donc le concours pour moi c'était sur le moment assez agréable en fait à faire mais je pense parce que par ailleurs j'étais surentraînée à un autre concours et c'est vrai que ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté élitiste, il y a peut-être un côté comme ça dans l'école scolaire parfois, au moins sur le concours.
Arlène Groff, est-ce que vous vous souvenez de l'épreuve, la première épreuve? Cette épreuve où vous êtes 1250 dans cet amphi, on vous fait commenter une scène.
Eh bien, en fait, pas tant que ça. Mais c'était bien de pouvoir la revoir, parce que je crois que je me souviens plus de l'extrait. En revanche, je me souviens très bien de l'épreuve finale, qui était l'épreuve du jury. Ça, pour le coup, j'en ai un souvenir très clair. Et je me souviens d'être sortie avec l'impression vraiment que j'avais bien réussi mon coup, puis qu'en fait, j'étais toute rouge.
Comme votre t-shirt aujourd'hui.
Ouais. Non, mais là, je reviens sur la première épreuve parce que en même temps, là, je suis un peu jugé parti, pardon, parce que je fais partie du jury de la première épreuve. Franchement, nous, le mot d'ordre qui est donné, et je voudrais vous faire réagir là-dessus, c'est de la part vraiment des dirigeants de la Fémis, chercher les personnalités. On en a rien à faire des bêtes à concours. Ici, c'est pas le problème. Chercher les personnalités et qu'elles émergent. Et donc, c'est quand même ça le mot d'ordre qui est donné. Alors, peut-être qu'on fait mal notre boulot de correcteur.
Ben non, mais à l'inverse, je pense que j'ai pas eu la grecque et que j'ai eu la Fémis, justement parce que moi, pendant le jury final dont vient de parler Arlène, moi, je me suis vraiment sentie écoutée. J'ai eu l'impression d'être face à des gens qui voulaient justement exactement savoir qui j'étais. D'accord. Et pourquoi j'étais là. Et finalement, ce qui les a intéressés chez moi, beaucoup plus que la grecque d'anglais, c'était que j'étais ouvreuse dans des salles de théâtre, des choses comme ça. En fait, finalement, c'était plus le côté pratique de mon cursus qui les a intéressés.
Thomas, je vais vous faire écouter une postulante au scénario qui s'en mêle un peu les pinceaux dans son synopsis.
Alors, il y a, vous pouvez redire tous les noms des gens, parce que moi
Émile
je suis.
Émile est le réalisateur de la soixantaine qui a été tué.
Ouais.
Son fils, Mathias. Voilà, son fils Mathias vient pour enquêter sur, pour enquêter par hasard sur son meurtre. Il découvre dans la famille d'à côté donc trois personnes qui sont Pierre, le maître de maison, sa femme Clara. Isabelle, excusez-moi, je me suis trompée. Et donc leur fils Jonathan, qui n'est pas au courant donc que Clara n'est pas sa mère. Et donc Clara était Donc Clara est la nouvelle femme de Pierre et l'ancienne Émile donc avait une femme qui est décédée qui s'appelle Isabelle et cette femme Isabelle est la mère de Jonathan. Donc
et de Mathias.
Et la voilà. C'est pour ça qu'ils sont demi-frères.
Il était l'amant de la femme de la maison d'à côté.
De l'ex-femme de Pierre.
De l'ex-femme qui était.
Non, il a volé sa première femme à Pierre.
Oui, mais c'est devenu sa femme, puisque c'est la mère de son
oui,
fils.
Oui, c'est devenu sa femme, oui.
C'est la mère de Mathias.
Oui. Isabelle, c'est la mère de Mathias.
Isabelle qui est morte.
En fait, il n'y a qu'une femme, il n'y a qu'une mère.
Non, mais donc, il vient sonner à la porte du mec à qui il a volé sa femme en disant « Je fais un documentaire voilà. sur la région et les voisins
». Il a volé sa femme, il a eu un enfant avec cette femme, la femme de Pierre, donc...
Oui, il vient de filmer,
mais il ne le reconnaît pas. Ils se sont croisés à l'époque, mais ils ont un peu oublié quelqu'un qu'ils avaient.
Et en même temps, dans la maison de Pierre...
il y a une photo de Pierre avec la femme qu'il a vraiment aimée avant sa femme de maintenant,
mais avec beaucoup
Clara.
De poussière et de manière...
avec beaucoup de poussière, parce que quand même, il faut pas exagérer.
Ils sont là depuis un an en même temps.
Mais je crois que c'est très bon, en fait.
On a hâte de découvrir le premier film de cette étudiante. Arlène, le jury est très compatissant quand même. Hein.
Oui, mais ils écoutent. Enfin, moi, c'est ce qui m'a touchée énormément dans le film, c'est de voir à quel point ils sont habités par le sens et l'importance de la mission de juré qui leur est confiée. Et que ils se questionnent en permanence sur chaque mot et chaque... Bah, ils savent que de cette décision... va découler beaucoup de choses. Et donc, ils essayent vraiment de comprendre le scénario incompréhensible de cette jeune femme.
En l'occurrence, c'est limpide quand même. Je veux dire, on a tous compris
que c'était Michel.
C'est Michel le meurtrier, ça fait absolument aucun doute.
Ventard. Bah.
Vous rappelez de cette épreuve de scénario que vous avez eu, vous?
C'est terrible, l'épreuve du deuxième tour au scénario. En fait, il y a deux épreuves. Il y a une première épreuve en 7 heures, ce qui est une durée... marathonienne quoi, pour un mauvais marathonien, et pendant laquelle on doit écrire un récit de long métrage sous forme de traitement ou de synopsis à partir d'une commande. Et ensuite, on a la même chose à l'oral en 45 minutes. Donc, on tire une phrase, un extrait de dialogue, et on doit écrire une promesse d'histoire qu'on défend devant un jury. Et là, ce qu'on voit bien dans l'extrait, c'est que l'idée, c'est pas qu'il évalue la puissance de son récit ou la maturité de la jeune dramaturge. C'est pas du tout ça. C'est au contraire l'aider à aller plus loin pour comprendre si elle peut appuyer sur des leviers, si elle arrive à faire des liens dans son histoire. Donc, on doit l'aider à accoucher de quelque chose. Et c'est déjà un travail de scénarisation. En fait, c'est ça qu'on comprend dans le film. C'est pour ça qu'il y a cette bienveillance et qu'on voit parfaitement dans le film.
Et vous vous rappelez de sur quoi vous avez dû plancher, vous ?
Alors, à l'écrit, il y avait trois photos et c'était trois jeunes femmes mortes. Donc je me suis dit, cool, on entre dans un territoire de comédie. Il y en avait une qui était morte noyée dans un canal, une dans une rue et l'autre dans une forêt. Donc j'ai pris la forêt. À l'oral, c'était une citation d'un dialogue de La Nuit américaine. Je me retournais et tu étais là, Pamela. Voilà. Et j'avais pas vu La Nuit américaine à l'époque. Tant mieux, parce que je pense que ça aurait été assez inhibant. Donc j'ai construit un polar assez absurde avec un commissaire Pamela. Et voilà. Et puis on en a discuté avec le jury qui m'a aidé à développer l'histoire.
Charlotte Sanson, est-ce qu'il faut être cinéphile pour entrer à la FEMIS?
Je pense que oui, quand même. Après, ça peut être tout type de cinéphilie, je pense. Mais cinéphile, vraiment aimer le cinéma, oui.
Pourtant, il y a une candidate à qui on demande de citer un film qu'elle a aimé et qui est incapable de... Vous pensez que c'est de la timidité ou c'est quoi?
Je crois qu'elle n'est pas sur la photo de famille à la fin.
Non, bien sûr.
C'est méchant.
Mais c'est en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé quand j'y suis rentrée. J'y suis rentrée, 3 jours après j'ai commencé à parler avec mes camarades de promo et d'un coup j'avais l'impression qu'on pouvait passer des heures totales au café pendant voilà, à parler que de cinéma et une impression de rencontrer justement enfin des gens qui aimaient vraiment ça et que ça en fait, enfin, dans un espèce de truc...
Ouais, moi j'ai eu exactement la même impression de trouver un peu une famille là-bas en fait. Moi je craignais justement ce côté élitiste de l'école dont on parle beaucoup de l'extérieur. Et en arrivant, j'ai vraiment eu l'impression de rencontrer des gens qui sont devenus mes amis les plus proches maintenant et des collaborateurs aussi pour beaucoup. Donc ça c'est génial aussi.
Ça c'est très important les collaborateurs. C'est-à-dire c'est une école où on apprend à travailler ensemble.
Bah, on fait surtout ça en fait, parce que c'est pas du tout une école théorique. C'est une école où on passe son temps à pratiquer le cinéma. On écrit, on tourne, on monte. Donc on rencontre des gens avec qui potentiellement on est amené à travailler. On crée des occasions de rencontres. Donc c'est vrai que la curiosité et la gourmandise, la soif de voir des films et d'en faire, c'est ça la première qualité. C'est quelque chose qu'on voit vraiment dans le film de Claire Simon. C'est que le premier critère, c'est le désir. C'est quand même avant tout ça qui fait changer qui peut faire changer la vie d'un jury. On ne peut rien faire contre le désir de quelqu'un.
Est-ce que ça dure 4 ans donc pour la réalisation, le scénario, etc. Est-ce que c'est 4 ans dans un grand luxe, quand même, hein, de matériel et d'instructeur professeur, vous éloigne pas de la réalité du métier?
Alors, personnellement, j'étais en scénario, donc j'ai amené mon ordinateur, et puis ensuite, on travaillait sur des tables et des chaises, donc c'était pas très luxueux.
Ce qui est luxueux, c'est l'enseignement.
Non, ce qui est luxueux, c'est la diversité des intervenants. C'est-à-dire qu'il y a 200 intervenants par an, qui viennent de tous les métiers du cinéma, qui pratiquent, tous les métiers, qui viennent nous enrichir de leurs expériences. Et puis également, dans les filières, pour toute la partie technique des films, notamment la post-production et aussi le tournage, c'est le matériel, quoi. Parce que faire des films, ça coûte cher. S'initier au mixage, par exemple, il faut de l'équipement. Donc ça, c'est vrai que c'est la dotation de l'école est hallucinante. Elle permet d'ailleurs à certains films professionnels qu'on voit au cinéma chaque semaine de se terminer ou en partie de se faire.
Arlène et Charlotte, l'école s'adapte le plus possible à la réalité du cinéma, et notamment avec cette nouvelle section qui n'est plus nouvelle maintenant, mais vous en êtes sorti de la deuxième promotion qui est exploitation-distribution, c'est-à-dire comment, le dernier maillon de la chaîne, comment proposer du cinéma au public.
Mais c'est ce moment-là, parce que elle est beaucoup plus courte, la formation distribution exploitation, elle dure 1 an et demi, avec des cours pendant en gros 9 mois, et on rencontre, tu disais 200 par an, là c'est en 9 mois, c'est entre 120 et 150, et en fait c'est un accélérateur formidable, parce qu'on rencontre des gens, tu parlais de luxe, ce qui est vraiment très très important, c'est la qualité des intervenants, et le niveau professionnel de ces intervenants-là, en fait on rencontre en 9 mois des gens qu'on mettrait 10 ans à rencontrer en rentrant par la petite porte. En fait.
Et du coup, quand vous sortez, vous êtes pratiquement tous assurés d'avoir un emploi.
Dans ces filières-là.
Bien sûr, il n'y a pas d'emploi.
Pas d'emploi réalisateur. Non.
Dans distribution, exploitation, quasiment tout le monde, je ne sais plus le taux derrière de transformation, c'est 90%, quelque chose comme ça.
On va écouter un extrait justement d'un passage par rapport à avec une élève de distribution.
Comment vous avez pris goût au cinéma? Vous vous rappelez?
Je sais que ma première confrontation et mon premier choc, j'étais tout enfant et c'était Les Demoiselles de Rochefort, et qui je pense restera le film de ma vie que je connais par cœur. Et...
Vous en avez encore les couleurs donc...
Ah oui, on ne se change pas. Et je sais pas, et déjà tout enfant je trouvais ça très beau et mon rêve absolu c'était d'être Françoise d'Orléac et de parler exactement comme elle avec sa voix et voilà.
Pourquoi le choix de la distribution plus que la production ou l'exploitation?
En fait, c'est quelque chose qui est venu comme ça. Je savais que ce que je voulais faire, c'était montrer des films et amener du public dans les salles. Et en fait, plus j'avançais à la fac, plus je me rendais compte que avant de faire ça, j'aurais bien aimé travailler au service d'un film, vraiment accompagner un film de la production à la sortie en salle et comment... amener des gens à voir les films qu'on défend et qu'on choisit de prendre sous son aile un peu. Donc voilà. Mais je me dis que mes envies peuvent encore évoluer, mais pour l'instant j'en suis là et voilà. Et du coup, oui, vous prenez que 3 élèves, c'est ça?
En distribution.
Et ça ne varie pas. C'est établi et...
C'est non négociable.
Voilà, c'est la même question. Très bien. Bonne journée et bon nombre.
Merci,
au revoir.
Un vent de fraîcheur, quand même.
Oui, exactement. Ouais. C'est l'antithèse, du coup, effectivement.
Ah oui, là, c'est un grand écart.
C'est bien le...
C'était...
L'alternance.
Une vraie dramaturgie sur l'après-midi, en fait.
Elle sort de la fille du 14 juillet, là. Mais... c'est clairement...
Ouais. Miraculeux, Claire Simon, qui a obtenu de filmer ses délibérations. Arlène Groff, vous êtes maintenant programmatrice au 104 à Pantin. Alors, c'est quoi votre métier concrètement au jour le jour?
Alors, concrètement au jour le jour, c'est voir les films, ouais, les choisir, travailler en lien avec les distributeurs, dont certains que je connais parce que ça commence à faire 10 ans maintenant que je fais ça, mais que je connais aussi parce qu'il y en a certains que j'ai rencontrés à la FEMIS, ouais, effectivement. Ouais. Et puis ensuite organiser des débats, faire venir, travailler avec les associations, travailler tout le tissu local aussi autour de la salle. Donc en Seine-Saint-Denis, en plus sur un territoire qui est très particulier. Et par exemple, par ailleurs, sur les cinéastes aussi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire venir aussi des cinéastes parce que je les avais rencontrés à la FEMIS ou connus avant ou après, des techniciens. Il y a aussi tout un réseau comme ça qui se crée et qui fait que, ben voilà, ensuite, ces liens-là, ils se continuent.
Charlotte Sanson, c'est passionnant ce métier. Pourquoi l'avoir abandonné pour devenir scénariste?
Bah alors, moi, il y a un truc qui m'a frappé dans le film, c'est que c'est vrai qu'on sent que les gens sont encore très jeunes quand ils passent le concours, pour beaucoup. Moi, j'avais 24 ans quand j'ai passé le concours. Paradoxalement, je me sentais déjà très vieille, donc j'avais l'impression que repartir pour 4 ans d'études, alors que j'en avais déjà fait beaucoup, ça me paraissait un peu monstrueux. Et puis, j'avais très peur de pas travailler en sortant, et j'avais besoin de travailler, pour des raisons financières, quoi. Et du coup, j'ai vraiment choisi un peu la raison en tentant distribution exploitation. Aussi parce que, comme je disais tout à l'heure, je voulais m'évader de ce que j'avais déjà choisi de faire. Et immédiatement, en arrivant dans l'école, j'ai été immensément frustrée de découvrir les autres filières, tout ce qu'on pouvait faire de génial dans le cinéma. En fait, moi, en tant que pure cinéphile, pour moi, le cinéma, c'était voir les films dans les salles. Donc, l'exploitation, c'était le plus évident, quoi. Et c'est ce que je connaissais aussi en tant qu'ouvreuse, bénévole dans les salles, voilà. Et j'avais pas vraiment osé, et puis j'étais encore trop jeune, je pense, pour être allée au bout de mon trajet et assumer ce que j'avais vraiment envie de faire, qui était en fait beaucoup plus dangereux aussi, parce que scénariste, on n'a pas de statut, donc faut vivre de ce qu'on écrit, quoi.
Depuis, vous avez donc écrit cet unitaire réalisé par Jean-Philippe Amar qui s'appelle Pilule Bleue. Vous planchez avec lui sur une prochaine série pour Arte qui s'appelle Accro.
Voilà, tout à fait. Format 6 fois 52 minutes. Que j'écris. Voilà,
donc ça va. Donc ça va, c'est parti pour vous.
Oui, effectivement. J'ai réussi ma réorientation. Alors ça s'est pas fait en un jour. Hein. J'ai d'abord travaillé dans la distribution, puis j'étais lectrice, puis chargée de développement en télévision. Et ensuite j'ai commencé à écrire. Donc ça a été un long trajet en fait avant d'arriver à assumer de le faire vraiment.
Thomas Caillet, quelle est la chose la plus importante que vous ayez appris à la FEMIS, ou là ou les choses?
Je me souviens en tout cas que le fait d'avoir bloqué ces 3 années, parce qu'il y a 4 ans, mais une année de tronc commun et ensuite 3 ans, d'avoir bloqué ces 3 ans à écrire, parce que c'est écrire 2 longs métrages par an à peu près, en scénario, ça, c'était une vraie, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire que jusqu'ici, j'écrivais les week-ends, les soirs, etc., et on peut pas vraiment je pense pas qu'on puisse écrire vraiment un scénario de long métrage comme ça. Du coup, cette régularité, le fait de se forcer, ça a été d'apprendre qu'il y a des méthodes, d'essayer de réunir des outils et de se constituer sa propre boîte à outils en tant qu'auteur. Voilà, je crois que c'est ça. C'est ça et puis évidemment les rencontres.
Les rencontres, vous confirmez toutes les deux, les rencontres.
Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a quand même un côté accélérateur, comme Arlène l'a dit tout à l'heure. Moi, par exemple, comme j'étais scénariste après autodidacte, il y a eu un truc dont j'étais un peu jalouse des élèves scénaristes de la FEMIS, qui était l'échange avec Columbia. Et du coup, c'est un truc que j'ai fait après par moi-même pour me former aux séries télé. Et c'était hyper compliqué d'obtenir un visa, les frais d'inscription sont hyper élevés, etc. Les élèves scénaristes de la FEMIS, c'était l'école qui organisait l'échange. Ils n'avaient plus qu'à arriver sur place, quoi. Il y a comme ça plein de choses qui facilitent la vie, même si ça ne fait pas tout. Parce que, donc moi, j'ai fait la filière distribution-exploitation à la base. On nous forme pour être des cadres, mais c'est vrai que quand on sort, on fait comme tout le monde, des stages, des CDD mal payés. Alors effectivement, on s'insère et on s'insère vite grâce au réseau qu'on arrive à créer et puis au côté sur mesure de la formation, mais ça brûle pas toutes les étapes non plus, quoi.
On va écouter un extrait. Je vous signale d'avance, il est long, mais il est tellement incroyablement riche. Il raconte tellement de choses sur l'école, sur comment juger, sur l'apparence. Je vous propose... Je vous propose cet extrait.
C'est bon, je craque.
Ah, moi, je craque.
On peut plus.
C'est l'apologie du galérien.
la dictature par le travail.
Enfin, là, attention à ce que tu vas dire, ça.
Bah, je le dis, je sais que tu vas réagir parce que je veux que tu le regardais avec des yeux de Merlan Frit tout le temps, mais bon.
Alors là, c'est une violence.
C'est une expression, J'ai l'impression qu'il était sous coke ou je sais pas.
Mais tu plaisantes, il n'est pas sous coke, il joue sa vie.
Ouais.
Mais bien sûr,
j'ai pas senti ça du tout. Il est très malin.
Non, il trace à la vie.
Il tremblait comme
une feuille. Qu'en pense Emmanuel?
Oui, voilà, Emmanuel,
ça va être un carnage, quoi, dans la...
Dans l'école, là.
Si, ouais. Je pense, mais bon, après...
carnage au sens où il va tuer tout le monde.
Non, mais c'est une personnalité très, très... à la fois très fascinante et très intéressante, mais il me fait peur aussi, parce que je le trouve... Non, mais je le trouve super, comme ça. Et surtout, je pense qu'il a une telle énergie, il a une telle volonté, une telle vision, une telle certitude, que moi, je pense qu'il va y arriver là, et que dans l'école, ça va être... Alors là, moi, je crois l'école n'est pas du tout appropriée. Ici, les gens arrivent blasés parce qu'ils baignent là-dedans depuis. Mais justement, tous ces gens blasés, tu sais, enfin, on le sait.
Il n'arrivera jamais à s'intégrer.
C'est un militaire presque. Du travail, un militaire.
Je trouve super, mais surtout, je pense qu'il peut y arriver tout seul. Et qu'à sa façon, comme il a envie, il va y arriver.
Non, mais alors, je suis désolée parce que moi, pour le premier qui a fait. Alors,
le premier, il peut très bien y arriver tout seul. Celui qui a fait Sciences Po, qui a fait l'X.
Non.
Non, mais... non, parce que le premier, c'est un élève, c'est un bon, garçon, il est, tu vois, il est...
Lui, c'est un punk.
Mais c'est pas un punk, c'est un bouseux.
Pas du tout. Non.
Il a... Mais bien sûr que si. Mais si, c'est un bouseux. Enfin, écoutez, faites pas semblant de pas le voir.
Mais il vient d'un milieu. Mais bien sûr que si, c'est ça. Toute la question est là. Mais c'est pas du populisme. C'est aussi donner sa chance à des gens qui ne viennent pas de là. Il est
mis j'étais très... Je suis pas arrivé à me faire une opinion pendant le temps de l'entretien, en fait. J'ai vraiment besoin que ça se décante parce que...
C'est compliqué.
J'avais quand même vraiment... pendant assez souvent, je me disais que quelqu'un comme ça à l'école, ce serait vraiment formidable.
Mais évidemment.
Et que l'association avec les gars de Sciences Po, ça pouvait vraiment produire un truc assez.
Mais bien sûr, j'ai peur pour lui. J'ai peur pour lui.
Mais ce serait quoi la peur pour lui?
Il faudrait qu'il se sente mal et qu'il discute pas.
Que personne aille vers lui. Qu'aucun réalisateur, tu vois, Emmanuel, il le dit.
Non, mais il n'a aucune écoute des autres. Il les lance. Ben si, moi je l'ai ressenti comme ça. Mais
tu présentes, il est barman, il passe ses soirées à écouter les gens. Ne dis pas qu'il a aucune écoute. Non, mais je suis désolée. Et son dossier d'enquête, Non, mais son dossier d'enquête, ça fait 20 ans que j'habite à Paris, ça fait 20 ans que je me demande pourquoi c'est toujours un tamoul en cuisine. Et ça, c'est incroyablement pertinent. Et c'est-à-dire. Mais on ne peut pas dire ça. Enfin, on ne peut pas ne pas lui donner sa chance parce qu'il va continuer. On peut dire ça de tous les autres.
Moi, je veux bien, ça ne me dérange pas de dire.
Permettez-moi juste de finir, parce que pour le coup, c'est vraiment mon chouchou. Non seulement le mec répond à une question, ça fait 20 ans qu'on est tous à se la poser quand on va au resto, et en plus, il termine en disant « Une génération d'hommes invisibles a engendré une génération d'hommes qui vit ses rêves en pleine lumière. » Et le mec parle de lui, c'est-à-dire qu'il a fait un récit autobiographique, il me parle de sa mère, de son père, du désert culturel dans lequel il est né, quoi. Et c'est une forme, c'est une forme de remerciement à ses parents et lui au trajet incroyable.
Tu veux dire que tu es allé vérifier l'adresse sur Google Maps?
Mais non, c'est pas une question d'adresse, c'est une question de récit autobiographique. Ce mec est né dans un désert et on ne peut pas lui dire non, vous n'avez pas le droit d'avoir accès à la Fémis parce que vous allez, ça peut être dangereux pour vous.
Thomas Caillet, il y a des étudiants dangereux non mais vous voyez, des types un peu hors normes, quoi, à la Fémis.
Oui, il y a des profils très différents.
Oui.
C'est ça qui fait la richesse d'une promotion. Ce qu'on voit là, c'est qu'il y a un jury qui est inquiet, de passer à côté de la bonne personne.
Et
que sélectionner, c'est pas simplement enlever, c'est aussi additionner. C'est additionner des gens et se dire que les qualités des uns avec les qualités des autres, les différences, ça peut créer quelque chose. Et ça, je trouve que C'est une voix qui est intéressante à écouter parce que on, en fait, l'idée du concours, la figure du concours, c'est un truc qu'on voit beaucoup à la télé, c'est The Voice, c'est Top Chef. Mais à chaque fois, on est concentré sur les performances des candidats. Et là, ce qu'on voit, c'est un jury qui se prend la tête, qui est inquiet de faire les mauvais choix, qui est engagé dans son processus. Donc ça, ouais, c'est passionnant.
Comme il y a un vrai suspense dans le film, je vous dirai pas s'il est sur la photo de la photo finale des 60 retenus à peu près. Sinon, sur le côté Arlène Groff, sur le côté milieu social de la Fémis, vous avez même Charlotte Sanson, vous trouvez qu'il y a un peu plus de mélange qu'avant?
Alors, je pense que ça dépend des promotions, mais moi, j'étais très surprise de voir dans la mienne qu'il y avait effectivement des milieux sociaux variés. Moi-même, je ne savais pas qu'on pouvait être boursier avant d'entrer dans l'école et j'ai eu le maximum de bourses comme à la fac, en fait, quoi. Donc, il y a plein de raisons qui font qu'on s'empêche de passer cette école en pensant que c'est pas pour nous. Et en fait, c'est c'est une école publique où on peut être boursier et donc il y a des profils effectivement très variés.
Faut rappeler qu'avant ces oraux, il y a des écrits qui sont alors, eux parfaitement anonymes. Donc de ce point de vue-là, l'origine sociale des gens qui écrivent de façon anonyme, il faut être fort pour la deviner. Hein, donc.
Voilà, on s'en sortit Ozon, Berko, Siama, Hans Pack, Desplechin, Ferenc Lotowski et Caillet pour parler des réalisateurs et des scénaristes et des exploitants et des distributeurs et des monteurs et des chefs-op et des producteurs, toute une nouvelle génération. Vous restez avec nous, on se retrouve pour les sorties après Money.
Money ain't got a thing on me.
y a réunion des anciens élèves dans le studio.
Ça parle.
Laurent, qu'est-ce qui a marché mercredi?
Eh bien, réjouissons-nous, c'est Jackie en tête de podium. Oui, on est bien contents. Ensuite, Moonlight et puis Red Dink. Ah oui, Red Dink. Oui.
Oh là là, quel mépris. Jackie de Pablo Larraine, donc, 22 novembre 63, John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis, vient d'être assassiné à Dallas, confronté à la violence de son deuil, sa veuve Jacqueline Kennedy, Jackie, First Lady admirée pour son élégance et sa culture, tente d'en surmonter le traumatisme. Ce n'est pas un biopic, mais plutôt une introspection dans la tête d'une femme qui va se révéler, se réveiller, exister après un deuil pour défendre une mémoire, un héritage politique. Pour paraphraser un autre film célèbre, c'est vraiment Jackie face à son destin, de potiche à héroïne. Pas forcément sympathique d'ailleurs, superficielle, capricieuse, hautaine, mais investie d'une mission comme son actrice Nathalie Portman, transfiguré.
Ah oui, c'est curieux comme un même cinéaste, en l'occurrence Pablo Larraine, peut rater une biographie de Neruda, selon moi, et réussir. Alors, ce qui n'est pas un biopic, vous avez raison, parce que c'est trois journées, mais au fond, en trois jours, on nous dit tout, et elle nous dit tout sur elle-même, et Larraine nous dit tout sur elle, avec effectivement une Nathalie Portman qui est incroyable dans dans son petit tailleur rouge Chanel.
Jusqu'à le mimétisme de la voix, l'intonation.
Oui, avec les taches de sang qu'elle enlève, la boue sur ses chaussures. Enfin, c'est une précision à la fois chirurgicale. Et c'est une reconstitution aussi. Il y avait déjà des choses comme ça dans No de Pablo Larraine sur le Chili, mais là, la façon dont il mêle la réalité fictionnée avec les images d'archives, c'est extraordinaire. Le tout servi par une superbe BO de Mika Levy que je tiens à citer. Ça s'appelle Jackie et il faut aller le voir en salle.
Très mortifère en même temps, on est très mal en sortant.
Oui, c'est l'histoire d'un assassinat.
Ouais, voilà, c'est vraiment une ambiance très glauque, très.
Bien
très,
sûr.
Très noire.
Oui, mais c'est ça qui est très réussi, je trouve aussi.
Et il faut salue la nomination de Madeleine Fontaine pour ses costumes.
Que nous avions reçu.
Oui, on a vraiment l'impression qu'elle les a toujours portés, ses costumes, sauf dans cette scène absolument extraordinaire où elle parcourt la Maison Blanche avec ses anciennes tenues qui sont portées comme des reliques.
Absolument.
La femme qui est partie de Lave Diaz, Lion d'Or à Venise en septembre dernier, Laurent, Horacia sort de prison 30 ans après avoir été injustement incarcérée. Elle a deux raisons de vivre, se venger de l'homme qui l'a fait condamner et retrouver son fils. Lave Diaz est à la fois auteur du scénario, réal, chef op et monteur.
Moi, j'adore ces 3h45 minutes de cinéma, de vrai cinéma. Mais je crois qu'il y a quelqu'un aussi sur le plateau avec nous qui l'aime beaucoup.
Oui, moi aussi, je l'aime beaucoup. Effectivement,
c'est
cinéaste philippin dont les films nous arrivent en France petit à petit. C'est un film plutôt court par rapport aux 9h de Death in the Land of Encantos. Oui. C'est un cinéma qu'il faut vraiment expérimenter en salle parce que c'est une expérience du temps au cinéma qui est totalement unique, sans oublier jamais le romanesque, et c'est un type qui part de Dostoïevski, etc., pour nous raconter les Philippines d'aujourd'hui. C'est vraiment très beau.
Moonlight de Barry Jenkins, le destin d'un jeune noir homosexuel des quartiers pauvres de Miami, de son enfance à l'âge adulte, entre humiliation à l'école, mère accro à la drogue, rencontre avec un dealer qui va le prendre sous son aile, découverte, révélation de l'amour pour un autre garçon, une scène de plage absolument magnifique, sans pathos et avec beaucoup de courage pour aborder ce thème complètement tabou, l'homosexualité dans les quartiers défavorisés. Trois portraits à trois âges de la vie, Laurent.
Oui, on sait que on sait bien, nous qui avons adoré Swagger, que c'est un vrai tabou, parce que dans Swagger, on n'arrive pas à l'aborder, ce tabou. Mais oui, mais ça devrait être du bruit et de la fureur, ce film, d'après ce que vous dites, ça devrait être quelque chose qui nous transporte, quelque chose de dur, quelque chose. Et c'est mollasson, c'est niaiseux, c'est rose, comme la Doxa le veut, quand on parle d'homosexualité, mais c'est rose bonbon en plus. Franchement, moi, je suis étonné par ce qu'on peut dire de ce film, parce qu'il y a un sujet qui aurait mérité qu'on embrase le monde, qu'on porte le fer là où il est, qu'on dise ô combien l'intolérance est là, et on a quoi ? On a un dealer qui nous fait un discours convenu sur l'homosexualité. Enfin, franchement, c'en est même très troublant, la façon dont ce film, finalement, ne parle pas de son sujet.
Moi, j'attends le premier cinéaste français qui abordera enfin
ce thème. Oui, moi aussi,
mais
avec plus d'allant.
Et les Mistral gagnants, Anne Dauphine, Julien, c'est un doc, elle a filmé la parole de 5 enfants malades, oulala, c'est très délicat comme sujet ça.
Je vais encore me faire des amis. Bon, alors, écoutez, oui, bien sûr que les enfants malades. Comme on peut pas être ému par les enfants malades, on est touché aux larmes. Il y a deux sujets abominables, c'est les enfants malades, puis c'est les enfants qui meurent. Enfin, c'est affreux, bien entendu. Le problème, c'est que on nous balance les Mistral gagnants de Renaud, c'est-à-dire la chanson la plus niaiseuse et la plus lacrymale du répertoire français. Mais pourquoi? Justement parce que c'est à l'image de ce film. C'est une sorte d'injonction à pleurer. pleurer, d'injonction à l'émotion. Ça passe au cinéma, on se demande un peu pourquoi. Il n'y a pas de cinéma là-dedans. Il y a éventuellement de quoi faire un beau reportage télé qui générerait un beau débat ensuite. Mais il n'y a pas, par exemple, au fond, ce qui nous intéresserait vraiment, c'est de se demander pourquoi, nous, les adultes, à quelle peur ça correspond, à quel tabou, à quel refus de voir les choses, ça correspond. C'est pas ça que dit le film et c'est très dommage.
Yourself on Yours de Hong Sang-soo, le romer coréen, et ses altermoiements du cœur, en l'occurrence ceux du peintre Yong-soo qui apprend que sa petite amie a bu un verre avec un homme et s'est battue avec lui. Le couple se dispute. Elle s'en va déclarant qu'il est préférable qu'il ne se voit plus pendant un certain temps. C'est alors que Hong Sang-soo imagine plusieurs cas de figure. C'est bavard, comme chez Romer, mais sans le charme de la prose, avec des personnages pas aimables du tout, presque résumés à des cas de figure rhétoriques, bref, pas charnels, pas sensuels, mais bon, difficile d'attaquer le chouchou du précaré critique.
Non, il n'est pas du tout le chouchou du précaré critique, c'est un très grand cinéaste avec qui fait le même film à chaque fois, mais évidemment différent, comme disait Truffaut, et c'est ça l'intérêt. Ici, c'est le jeu de l'amour et du faux hasard, parce que tout l'intérêt, c'est qu'il y a une héroïne, Min Jung. On pense qu'on nous présente, arrêtez de roupiller, c'est faux, qu'on nous présente comme possiblement une héroïne à plusieurs visages, c'est pas vrai, c'est toujours la même, mais elle ment, c'est une femme qui ment, et ça c'est très très intéressant, cette nouvelle variation dans l'art. Donc Sang-soo, il faut aller voir ce film, à mon sens, si on aime évidemment le cinéaste. Bon, si on l'aime pas, c'est un peu votre cas, on n'ira pas, c'est pas grave.
Gimme Danger, le doc de Jim Jarmusch sur un groupe culte, les Stooges, raconté par trois de ses membres, mais surtout par Iggy Pop, qui donne toute l'énergie à ce film, la vitalité, l'intelligence et la clairvoyance. Sans nostalgie, il raconte les Stooges avec tellement d'archives à l'appui, l'éternelle histoire du groupe, qui va devoir composer entre création et amitié, Iggy Pop et son corps, instrument, son corps, sa transe, qui aidait les autres à composer et surtout à jouer. Avez-vous influencé quelqu'un? Lui demande une journaliste. Il répond, j'ai aidé à liquider les 60s. C'est bien ça, les Stooges, et le doc de Jarmusch le prouve à travers un montage survitaminé. Le tout se termine presque par l'hommage au groupe en 2010, et dont il ne reste que trois survivants, et devant ce pupitre, Iggy Pop, toujours lui, prenons cette phrase qui résume si bien son groupe et son époque. La musique est la vie et la vie n'est pas un commerce. Allez voir ce doc qui s'appelle Gimme Danger.
Je confirme, et il vient bien en appui de Patterson, du dénommé Jim Jarmusch aussi, parce que c'est comment naissent les poètes. Les deux films répondent à la même question.
Exactement. Sarah de Pierre Corré, de l'animation française, lassée d'être les souffres-douleurs de leur communauté, Ajar le serpent et son pote Pete le scorpion décident de tenter leur chance dans l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien, avant d'y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar va tomber amoureux. C'est de la belle animation qui n'a pas grand-chose à envier aux Américains, Laurent, si ce n'est le scénario qui s'essouffle un peu dans les dunes.
Ah oui, complètement, parce qu'on sent bien que le référent c'est l'âge de glace, mais seulement on s'ennuie faire. Hein. Franchement, au bout d'un moment, ça devient très très
beau. Là aussi, on dort comme si on
se sentait. Non, pas comme si on se sentait.
Cruel, Éric Cherrière, portrait d'un tueur en série.
Ben écoutez, on aimerait bien aimer jusqu'au bout. Ce qui commence, c'est un film qui commence bien avec un univers de serial killer très gris, très glauque, comme on aime, avec les années 60. Il vit à côté de la déesse présidentielle de Gaulle, criblé de balles du petit Clamart. Moi, j'adore ce genre de référence. Ça évite le gore, et ça, c'est une qualité. Ça suinte la peur et l'angoisse, c'est toujours une qualité. Ça suinte le sordide aussi, mais malheureusement, ça ne tient pas la promesse jusqu'au bout. L'esthétique se délite progressivement tout au long du film.
On dit juste que Love Streams de Cazavets ressort.
Qui est un pur chef-d'œuvre. Gina Rowlands et Cazavets, frères et sœurs, mari et femme, on se demande.
Et puis là, c'est la bande-annonce de ce grand festival du court-métrage de Clermont jusqu'au 11. Compétition internationale 75 retenue parmi 6000, c'est beaucoup plus dur que la FEMIS. Compétition nationale 60 sur 1712.
63.
Oui, pardon, oui. Parce que
c'est le département du Puy-de-Dôme.
Ah d'accord, bien sûr.
Bien joué.
Ah très bien. Un public énorme, 160 000 entrées, 15 écrans, 3500 professionnels, une rétro humour noir et un focus Colombie. Laurent, un autre festival.
Eh bien, si vous êtes à Vesoul, dans ses environs, vous irez du 7 au 14 février au 23e Festival International des Cinémas d'Asie. C'est-à-dire que vous y découvrirez les cinémas du Sri Lanka, de la Géorgie, de la Chine, de la Corée. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'angles, beaucoup de thématiques. C'est un très beau festival.
Mais vite, 15 secondes pour les cadeaux, mon
oui,
Dieu, c'est horrible.
Alors, je ne sais plus à qui on offre Foucault à Marais, mais vous
et
allez le faire. Christine,
moi,
ça a paru chez Blackout.
C'est pour...
Voilà, ce merveilleux
c'est
documentaire italien, Gianfranco Rosi pour Arlène. Merci. Voilà. Nous offrons également Tony Erdmann, votre film préféré de l'année chez Blackout également, et ça,
pour Charlotte Sanson.
C'est pour Charlotte et elle en est ravie. Et puis moi, j'offre l'un de mes films français préférés de l'année, France de François Ozon, pour Thomas Caillé. Voilà, tous ces films-là sont d'ailleurs en compétition au César cette
Ozon,
année.
Ozon, ancien affémiste, affémiste raconté dans le film Le Concours de Claire Simon qui sort mercredi prochain.
Voilà, France, c'est chez France TV. Et puis nous, vous nous retrouvez sur le podcast de franceinter.fr, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des producteurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Contes a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Martine Messonnier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Anne Weinfeld.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Charlotte Sanson, j'y étais.
Et moi, Thomas Caillé, j'y étais.
Et moi, Arlène Grove, j'y étais.